Chapitre 34. Nuit du 14 au 15 décembre. Sa chambre à l'hôpital est froide et sombre. Eric se déchausse négligemment et sent l'odeur de végétation humide sur son manteau en l'accrochant. Grelottant, il fait bouillir de l'eau sur sa plaque électrique, se prépare un thé, prend deux puissants tranquillisants, puis s'installe à son bureau. Seule la lampe du bureau est allumée. Il fixe l'obscurité dense de la fenêtre. Il y devine son ombre près du reflet du cône de lumière. « Qui peut bien me haïr ?» se demande-t-il. « Qui peut bien m'envier, vouloir me punir, me prendre tout ce que j'ai, me prendre ma vie, ce que j'ai de plus intime ? Qui peut bien vouloir me briser ?» Eric se lève, allume la lumière du plafonnier, se met à faire les 100 pas, puis s'arrête. Il tend la main vers le téléphone et renverse un gobelet d'eau sur la table. Un filet se dirige lentement vers la revue médicale L'écart Edningen. Incapable de rassembler ses idées, il compose le numéro de Simone et laisse un court message disant qu'il aurait voulu regarder de nouveau l'ordinateur de Benjamin. Puis il se tait, ne sachant que dire. « Pardon, » dit-il à voix basse avant de jeter le téléphone sur la table. L'ascenseur gronde dans le couloir. Il entend le signal, les portes qui coulissent, puis le grincement d'un lit d'hôpital qui passe devant son bureau. Les comprimés commencent à faire effet. Il sent le calme monter en lui comme du lait chaud, comme un souvenir, un mouvement de l'intérieur. Comme s'il chutait d'une très haute altitude, traversant d'abord l'air froid et clair, pour ensuite pénétrer dans une eau chaude et saturée d'oxygène. « Allez, » se dit-il. « Quelqu'un a enlevé Benjamin, m'inflige cette souffrance. Il doit y avoir une clé à tout ça quelque part dans mes souvenirs. « Je te retrouverai. » chuchote-t-il. Eric observe les pages trempées de la revue médicale. Sur une photo, la nouvelle directrice de l'Institut Karolinska se penche au-dessus d'un bureau. L'eau a obscurci et estompé les traits de son visage. Quand Eric tente d'enlever le périodique, il s'aperçoit qu'il est collé sur la table. La publicité en dernière page reste accrochée, des lettres à moitié déchirées sur la conférence de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'installe sur la chaise et commence à gratter le papier collé à l'aide de l'ongle du pouce, mais s'arrête au milieu d'un mouvement et regarde la combinaison des lettres. E, V, A. Une vague de souvenirs reflue lentement, riche de reflets et de facettes. Puis, il voit très clairement l'image d'une femme qui refuse de rendre ce qu'elle a volé. Il sait qu'elle s'appelle Eva. Sa bouche est tendue, l'écume perle à ses lèvres fines. Outragée, furieuse, elle lui crie « C'est toi qui prends. Tu prends encore et encore. Tu dirais quoi, putain, si je te prenais des trucs? Ça te ferait quoi ?» Elle se cache le visage dans les mains et lui dit qu'elle le hait. Elle le répète inlassablement, peut-être 100 fois, avant de se calmer. Elle a les joues livides, le contour des yeux rouges. Elle le regarde absente et exténuée. Il se souvient d'elle. Il se rend compte qu'il se souvient parfaitement d'elle. « Eva Blow », se dit-il. Il savait qu'il commettait une erreur en acceptant de la prendre comme patiente. Il le savait depuis le début. Cela remontait à de nombreuses années maintenant, à l'époque où il utilisait l'hypnose comme un élément central et actif de la thérapie. « Eva Blow », un nom qui date d'un temps révolu, avant qu'il n'arrête l'hypnose, avant qu'il promette de ne plus jamais pratiquer. Il avait tant cru en l'hypnose. Il avait bien vu que, chez les patients hypnotisés en thérapie de groupe, l'interdit, le traumatisme, le crime, le sentiment de honte n'étaient pas enfouis aussi profonds. Il était par conséquent plus difficile pour le patient de les nier et plus facile de les soigner. La culpabilité était partagée, les identités respectives du bourreau et de la victime dissoutes. Le patient, entouré de personnes qui avaient vécu la même chose que lui, ne s'en voulait plus. Pourquoi Eva Blow était-elle devenue sa patiente? Il ne se souvenait plus de l'origine de sa souffrance. Il avait croisé tant de destins tragiques. Des personnes dévastées venaient à lui, la plupart du temps agressives, toujours terrifiées, compulsives, paranoïaques, souvent avec un passé émaillé d'automutilations et de tentatives de suicide. Beaucoup étaient au bord de la psychose ou de la schizophrénie. Ils avaient été systématiquement maltraités, avaient subi d'horribles tortures psychologiques. On leur avait fait croire qu'ils allaient mourir. Ils avaient perdu leurs enfants, subi l'inceste, le viol, avaient été témoins d'atrocités ou contraints d'y participer. Qu'est-ce qu'elle avait volé ? Se demande Eric. Je l'accusais d'avoir volé quelque chose, mais qu'est-ce que c'était ? Il n'arrive pas à se souvenir, se lève, fait quelques pas, ferme les yeux. Il s'était passé autre chose, mais quoi ? Est-ce que ça avait un rapport avec Benjamin ? Un jour, il avait expliqué à Eva qu'il pourrait essayer de lui trouver un autre groupe de thérapie. Pourquoi ne se souvient-il pas de ce qui s'était passé ? S'était-elle mise à le menacer ? Son seul véritable souvenir est une rencontre assez matinale, ici, dans son bureau. Eva Blow avait rasé tous ses cheveux et mis du maquillage sur ses yeux. Assise dans le canapé, elle avait déboutonné sa chemise et lui avait montré sa poitrine blanche d'une façon très détachée. « Tu es allé chez moi », avait dit Eric. « Tu es allé chez moi », répondit-elle. « Eva, tu m'as parlé de ta maison », poursuivit-il. « C'est tout à fait autre chose de s'introduire chez quelqu'un. »«
Je ne me suis pas introduite.
Tu as cassé une fenêtre. »«
C'est la pierre qui a cassé la fenêtre. »